Vous êtes sur RTL.
Plus.
13h, 14h.
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Bienvenue dans Focus Dimanche, l'émission avec ceux qui font l'actualité de la semaine. Chaque jour sur l'application RTL, vous avez rendez-vous avec Focus, le podcast quotidien de la rédaction où Marion Calais développe un titre de l'actualité. Chaque dimanche, on se retrouve avec les personnalités qui font l'actu de la semaine.
Focus Dimanche sur RTL.
Aujourd'hui, 4 entretiens. Fabienne a 56 ans. Dès le 5 du mois, elle est à découvert. Comment vivre avec 1200 euros par mois? Fabienne témoigne dans Focus Dimanche. Le petit Nicolas, c'est toute votre enfance. Il est de retour. Et qui de mieux que Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, pour nous en parler? Pénurie d'essence, hausse des prix des billets de la SNCF. Clément Beaune, le ministre des Transports, répondra à toutes nos questions en studio. Sol Ray était une grande violoniste. Une opération lui a provoqué une paralysie du bras. Elle est devenue chef d'orchestre. Elle se confie sur RTL.
Focus dimanche.
Mohamed Bouafsi.
Les prix de l'énergie augmentent, l'inflation aussi et les prix de l'alimentaire. Une vie de plus en plus difficile pour des millions de Français qui essayent de chercher des solutions. Fabienne est auditrice de RTL. Elle fait partie de ces Français qui jonglent avec les difficultés du quotidien, qui essayent de s'en sortir. Avec nous, en studio aussi, Christophe Robert, délégué général de la célèbre fondation Abbé Pierre. Le 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Bonjour Christophe Robert.
Bonjour.
On souhaitait organiser ce plateau avec vous. Vous et Fabienne. Fabienne, vous êtes une employée de maison à Châtellerault, dans la Vienne. Vous avez 7 employeurs. Racontez-nous les difficultés du quotidien que vous vivez.
Ben, c'est 7 employeurs en faisant très attention, surtout de ne pas les perdre, parce que c'est la précarité, sinon, encore plus. Après, j'ai des employeurs qui me payent bien et d'autres moins bien. Voilà, c'est ça. Et je fais aussi du repassage à domicile. Là, avec l'électricité qui a vraiment augmenté et tout ça, je ne sais pas si je vais continuer ou alors il va falloir que je dise aux personnes que je vais un peu augmenter mes heures. Moi, je prends 12 euros de l'heure, mais je vois bien que c'est un petit peu en dessous de la moyenne quoi, avec ce que je consomme. Et puis voilà, quoi. C'est très, très dur. C'est très dur.
Vous gagnez combien par mois, Fabienne?
1284 euros, exactement.
1284 euros.
Et j'ai 70 euros de CAF. Voilà.
Et vous dépensez combien pour votre vie quotidienne?
Eh bien, j'ai déjà 550 euros de logement, enfin de loyer. Bon, moins les 70 euros, mais bon, voilà. Et puis après, ben, j'ai tout ce qui est électricité, gaz, voilà, la vie quotidienne, quoi.
En clair,
j'ai pris Netflix pour plus aller au cinéma, parce qu'une place de cinéma, moi, c'est pas possible. Je peux même pas y emmener mon petit-fils.
Oui, une place de cinéma, c'est environ aujourd'hui 12, entre 12 et 14 euros. En clair, il vous reste combien? On est le 9 octobre voilà. Aujourd'hui, il vous reste combien?
Eh ben aujourd'hui, j'attends toutes mes payes, parce que je ne suis pas toujours payée au même moment. Mais là, pour cette semaine, en attendant que mes payes tombent, je dois avoir 20 euros à peine.
Sur votre compte?
Voilà, c'est ça. Et puis à la fin du mois dernier, j'étais dans le rouge de 200 euros. Et je sais que ce mois-là, je vais y être aussi, hein, parce qu'il faut que je paye mon gaz et mon électricité. J'ai pas de choix. Je veux pas qu'on me coupe. Voilà. Et en électricité, ça me révolte parce que en gaz pareil, j'ai plus de taxes que de consommation. Pratiquement, ça me tue.
Fabienne, comment vous faites en fait pour survivre?
Je fais attention à tout. Je vais au supermarché de bonne heure le matin pour avoir des produits à moins 30 ou moins 50. Moi, j'achète plus de viande, j'achète plus de poisson. Là, comme ça, c'est terminé. J'achète beaucoup d'œufs, des jambons blancs, des choses comme ça, quoi. C'est mon petit-fils qui est allergique, quoi, qui est complètement intolérant au gluten. Hier, j'ai acheté un paquet de gâteaux sans gluten, c'est 3,95 le paquet de gâteaux de base parce qu'il est sans gluten.
C'est le système de la débrouille. Comment?
Ah bah oui, tout le temps. Hein. Oui, c'est toujours le système de la débrouille. Hein.
Pour tout,
pour réparer ma voiture, c'est des amis qui m'arrêtent pas. Je fais des vides-greniers, je fais des brocantes, on me donne des trucs, donc je fais aussi des vides-greniers pour vendre. C'est toujours la débrouille. Et puis on est plein comme ça, hein. Surtout des femmes seules, avec des petits salaires. Et
oui, parce que vous l'avez élevée toute seule, sans pension alimentaire, votre fille?
Ah oui, sans pension alimentaire, sans aucune aide.
Christophe Robert, quand on entend le témoignage... on ne peut être qu'ému d'entendre le courage, la dignité de Fabienne.
Bah oui. Oui, bien sûr. D'abord, bonjour.
Bonjour.
Très courageuse, Fabienne, très digne aussi, et je sens aussi l'envie de témoigner, quoi. C'est-à-dire que de pouvoir dire ce que ça veut dire concrètement. Moi, ça me va droit au cœur parce que à la Fondation Abbé Pierre, on aide beaucoup de monde.
On est à la radio, vous avez les larmes aux yeux.
On voit beaucoup de choses. Je crois que je suis toujours surpris comment nos concitoyens réagissent quand ils entendent, quand ils voient les témoignages des personnes. C'est-à-dire que il y a beaucoup de débats en disant la société française tendrait trop à l'assistanat. Il y a des gens qui voudraient pas travailler. Alors ça peut exister, mais on voit bien que ça passe pas pour beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le cas de Fabienne, mais il y a beaucoup de choses très importantes au-delà de son parcours et vraiment plein de courage. Mais il y a beaucoup de choses qui font écho avec ce que vivent beaucoup de monde. Je vais en prendre quelques-uns par rapport à ce que Fabienne vient de dire. Je travaille, j'essaye de garder mes multi-employeurs, donc je me débrouille, donc je me lève tôt, donc j'essaye de faire tout ce que je peux. D'accord ? J'ai 1250 euros de ce travail. Premier élément. C'est peu, mais c'est le SMIC. Il y a beaucoup de gens qui sont au SMIC net aujourd'hui dans ce pays. Premier élément. Deuxième élément, je dépense, et on n'est pas au cœur de Paris.
Oui.
On est à Châtellerault.
Châtellerault dans la Vienne.
560 euros. Rien que ces deux éléments de la réalité de Fabienne que vivent beaucoup de monde, c'est quoi ? C'est 50% du budget qui est dédié au logement, à ce bien de première nécessité, celui que l'abbé Pierre nous avait dit, il est fondamental parce qu'il conditionne tout le reste. Et donc, on voit bien que pour tout un pan de la population, et Fabienne en fait partie, il y a ceux qui sont déjà dans la grande exclusion, et il y a ceux qui sont dans une situation où il faut compter tout. Tout. C'est-à-dire qu'on a des biens de première nécessité où il faut faire des arbitrages impossibles. Donc je ne me soigne pas comme il faut, donc je ne m'alimente pas comme il faut, parce que je veux garder mon toit sur la tête, donc je paye mes loyers. Donc, moi, ça me soulève énormément d'émotion, mais aussi de colère. Parce que je pense qu'il faut que nous regardions la France telle qu'elle est. La France de Fabienne, mais de beaucoup de monde derrière. Donc beaucoup de femmes seules avec enfants sont en difficulté. Je pense aussi à beaucoup de jeunes en rupture familiale, qui n'ont même pas le RSA par exemple. Et la question de la protection sociale, c'est-à-dire la manière dont on tend la main, nous, solidairement, collectivement, pour permettre à chacun, à Fabienne, de pouvoir vivre dans de bonnes conditions, c'est essentiel. Et ça passe par des aides pour les publics qui ont besoin d'être aidés, plus importantes. Il faudrait par exemple, je prends juste un exemple, que Fabienne puisse bénéficier d'aides personnelles au logement beaucoup plus importantes. Qu'elle puisse avoir 200, 250 euros, 300 euros d'aide au logement. Des aides personnelles, les APL, vous savez.
Ce qui est assez impressionnant, Christophe, avec Fabienne, le 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Fabienne, elle est dans le refus de la misère. C'est-à-dire qu'elle se bat, elle travaille, elle ne se laisse pas assister.
Soyons vigilants avec ce que vous venez de dire. Il y a des gens pour qui le parcours a été difficile, c'est le cas de Fabienne, et qui n'arrivent pas à se relever. Il faut les aider aussi.
Oui, c'est important. Vous avez raison de le préciser, ce n'était pas mon message.
Voilà.
Mon message, c'est que vous parliez d'assistanat, et elle refuse ça.
Voilà, c'est-à-dire que ce message sur l'assistanat, on entend cette petite musique.
Qui culpabilise.
Complètement, elle est insupportable. Elle est insupportable, c'est-à-dire que beaucoup de nos concitoyens ne se rendent pas compte que le parcours qu'ils ont eu, que les études qu'ils ont eues, que le réseau qu'ils ont, de soutien, de solidarité, qui à un moment, ah bah tiens, tu cherches du boulot, bah je connais quelqu'un qui, bah c'est pas vrai pour tout le monde. Il faut se débrouiller par soi-même. Et quand on est seul avec des enfants, et c'est le cas de beaucoup de femmes parmi les familles monoparentales, bah il faut concilier les enfants, le travail, il faut concilier la garde des enfants et le travail, et il faut s'occuper aussi de ces enfants. Donc, ces réalités-là que nous connaissons bien, qui sont bien documentées et qui, voilà, avec le témoignage de Fabienne, nous éclaire énormément, il nous touche profondément, il faut vraiment que cette France-là, elle soit écoutée par nos responsables politiques, locaux, nationaux, mais aussi par nos concitoyens, parce qu'on a les politiques qu'on choisit. Et si nous-mêmes, on entretient cette petite musique sur l'assistanat, à un moment, les responsables politiques, ils la relaient et ils agissent en conséquence. Il faut, et la journée du refus de la misère est une bonne occasion pour le faire, vraiment regarder où se situent les fragilités, qui a besoin d'être aidé. On a été un pays, et nous sommes encore un pays qui protège bien, mais il y a des nouvelles fragilités dont notre modèle ne s'est pas adapté, auquel notre modèle ne s'est pas adapté. C'est le cas des femmes seules avec enfants. C'est le cas des jeunes de moins de 25 ans en rupture familiale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'aide des parents et ils n'ont même pas le RSA. Pour les mêmes raisons, ce qu'on dit, oh là là, on ne va pas habituer les jeunes à s'installer dans un système d'assistanat. Mais enfin, nous, ce qu'on accueille dans nos lieux d'accueil de jour pour les personnes sans domicile, ils ont envie de s'en sortir, ils se bougent, comme Fabienne. Donc il faut bien leur donner ce petit coup de main de 500 euros pour pouvoir trouver un logement, se tenir digne, si vous voulez. Donc, Je pense que là, on a un débat, un échange à travers le témoignage de Fabienne, et je lui souhaite beaucoup de courage et j'espère qu'elle pourra trouver les solutions de s'en sortir, pour s'en sortir. Un débat de société profond.
Fabienne, vous avez 56 ans. Vous avez peur de l'hiver qui arrive là ? On sait que...
Ah oui. Ah ben, de toute façon, ça, c'est sûr que je vais pas chauffer des masses, hein, je peux vous le dire. Ça, c'est sûr. C'est sûr, ça me stresse énormément. Le gaz me stresse énormément. Ouais.
Christophe Robert.
Ouais, ça soulève une question fondamentale, parce que le tableau qu'on dressait tout à l'heure en réaction au témoignage de Fabienne, c'est un tableau qui précède l'augmentation considérable des prix de l'alimentation que l'on subit aujourd'hui et des prix de l'énergie que l'on va subir.
Oui.
Et là encore, il y a une question fondamentale de société. Par exemple, il existe un chèque énergie pour aider les personnes, qui existe depuis plusieurs années, à payer leur chauffage. Bon, la moyenne, c'est 150 euros par an. Donc, c'est pas assez. Il faut impérativement que dans le projet de loi de finances qui est débattu la semaine prochaine, on double, voire on triple le chèque énergie pour aider les ménages les plus fragiles, les plus modestes et les plus pauvres à pouvoir se chauffer dans de bonnes conditions. Ça, c'est fondamental. Après, il y a un autre sujet. Vous savez, à partir du 1er janvier, les prix vont augmenter de 15%. C'est le nouveau bouclier énergétique. C'est quand même un geste de l'État fort. Hein. Mais vous voyez, ce geste, c'est 15% d'augmentation pour ceux qui gagnent 5000 euros. Mais c'est 15% d'augmentation aussi pour ceux qui gagnent 1000 euros, comme Fabienne. Et là, je pense qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, considérer de la même manière tout le monde, ça ne permettra pas de soutenir davantage les ménages les plus modestes et les plus pauvres. Donc, au lieu de faire 15%, pour tout le monde. Je ne dis pas que les classes moyennes ne doivent pas être aidées, elles doivent aussi être aidées, mais peut-être que parmi les 20% les plus aisés, ils peuvent les payer ces 15%. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
C'est-à-dire qu'ils peuvent absorber l'augmentation des prix de l'énergie, alors peut-être jusqu'à un certain niveau, de façon à ce qu'on concentre les aides pour les 5, 8, 9 millions de personnes les plus en fragilité dans notre pays. Il y a 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. On peut penser même à un niveau un petit peu au-dessus. Donc ça peut faire 10, 11 millions de personnes pour qui il y a besoin que l'on les aide beaucoup plus.
Dans quelques secondes, Christophe Robert, je vous demande quelle solution la Fondation Abbé Pierre peut offrir, quel type d'aide la Fondation Abbé Pierre peut offrir à ces millions de Français, milliers de Français qui sont en difficulté. Fabienne, vous restez avec nous ?
Oui.
On revient dans Focus Dimanche sur RTL dans quelques secondes.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus.
13h, 14h,
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
On évoque les prix de l'énergie qui augmentent, la vie difficile de ces millions de Français en France. Vous êtes avec nous dans Focus Dimanche sur RTL. Ce discours poignant, puissant de Fabienne qui est toujours avec nous. Et Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Fabienne, quelle solution ?
Ben, la solution, c'est la débrouille. Voilà, c'est ça. C'est se lever de bonne heure, passer au supermarché avant d'embaucher pour pouvoir avoir quelques petits produits pas trop chers. Et puis voilà, et puis pas trop consommer, quoi. Faire attention à tout ce que je consomme, tout.
Fabienne, vous avez 56 ans. Vous observez de plus en plus de gens qui vont faire leurs courses dans des magasins discount, qui se lèvent de plus en plus tôt.
Bien sûr.
Ça a changé.
Ah oui. Ah oui, totalement. Et là, on va dire... 4-5 ans, 6 ans, là, c'est des gens que je ne voyais pas avant et que maintenant je retrouve et que, voilà, parce qu'ils me disent tous la même chose, mais on n'y arrive plus. Un emprunt de maison, les enfants, les machins, et c'est fini. Moi, j'ai fait le calcul pour que j'y arrive tous les mois, il me faudrait 300 euros de plus. J'ai préparé des flyers pour distribuer, pour faire du repassage à domicile encore, parce que pour avoir un petit peu plus. Mais moi, je voudrais surtout vivre de mon travail, quoi. Voilà, je travaille. C'est digne.
Christophe, Fabienne le dit, elle a vu évoluer les choses depuis 5 ans. C'est de plus en plus dur pour les gens aussi.
Il y a un décalage en fait entre les ressources de petits salaires et le coût de la vie, notamment dans le domaine du logement et maintenant l'énergie et l'alimentaire. Donc il y a un décrochage. Et en fait, il y a un chiffre qui traduit très bien cette réalité-là. C'est que vous savez, donc, je disais tout à l'heure que selon l'INSEE, il y a 14% de la population qui est sous le seuil de pauvreté, c'est à peu près 9,3 millions de personnes. Mais ça, c'est juste quand on regarde les ressources. Et on dit, en dessous de temps, ça fait 14% de la population. Mais quand on regarde la réalité des dépenses, et c'est exactement ce que nous dit Fabienne, quand on regarde ces dépenses qui sont incontournables, c'est-à-dire c'est pour vivre dignement, on n'est plus à 14% de la population.
Ouais.
on est à 20% de la population, voire 21% de la population qui est en situation de pauvreté, en conditions de vie. C'est une définition de l'INSEE où on regarde les dépenses de ces besoins de première, de ces biens de première nécessité.
Fabienne, vous le dites vous aussi, vous voulez vivre de votre travail, vous ne voulez pas être assistée. C'est le regard des autres qui vous gêne parfois ?
Bien sûr. Bon, après, comme il y a de plus en plus de personnes, vous vous dites, bon, bah, il n'y a pas que moi.
Vous avez peur du futur ?
Ben oui, bien sûr. Moi, je travaille depuis... je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, hein, c'est pas ça. Mais moi, mes parents étaient agriculteurs, on était 4 filles. On a toujours travaillé. Moi, j'ai commencé à rentrer fond, j'avais 10 ans. Et là, quand je vais sur le truc de la caisse des retraites, on m'aperçoit que j'aurai 962 euros en ayant travaillé depuis l'âge de 16 ans, quoi, que j'ai cotisé.
Christophe Robert, quels moyens on a à la Fondation Abbé Pierre ? Quels moyens on a d'aider ces Français, de faire évoluer les choses ? Quels moyens on a d'aider Fabienne ?
La Fondation Abbé Pierre, elle agit avec les dons, la générosité du public. Elle va construire du logement, par exemple, social. Elle va aider à rénover des logements pour des personnes très pauvres. Elle s'occupe beaucoup aussi de personnes sans domicile. Ça va être des créations aussi de pensions de famille pour des personnes qui ont vécu des périodes de rue. Ça va être essayer d'améliorer les conditions de vie de personnes qui vivent dans des bidonvilles. Ça va être, bref, toute une palette d'activités autour du logement. Comme d'autres associations vont faire des distributions alimentaires, par exemple, hein, comme les Restos du Cœur, comme les banques alimentaires. Mais vous savez, ça rejoint le combat de l'abbé Pierre, c'est de dire on doit tous aider. Et je crois que c'est vrai de chacun d'entre nous, de nous les associations, mais aussi nos concitoyens. Mais il faut aussi des dispositifs de politique publique. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'autrement, il faut qu'on tombe au bon endroit. Ben oui, ben oui. On est aussi dans une logique à la Fondation Abbé Pierre, au-delà de l'aide qu'on apporte directement aux personnes mal logées grâce aux dons, d'interpeller les politiques publiques, de faire évoluer les réponses des politiques publiques. C'est essentiel, vraiment essentiel.
Le 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. J'ai été vraiment très, 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 très fier. Et je pense que les auditeurs de RTL, de Focus Dimanche, partagent ce constat. J'ai été très fier de vous inviter, Fabienne, de vous écouter aujourd'hui.
Moi aussi, je suis très contente d'avoir participé. Vraiment. Faut pas se laisser abattre. Il y a plein de joueurs après à côté. Hein.
Ouais, merci pour votre dignité. Voilà. Et merci Christophe Robert.
Merci à vous et bon courage Fabien.
Dans quelques minutes, le ministre des Transports, Clément Beaune, sera avec nous en studio pour prolonger le débat sur les difficultés des Français. Mais avant ça, retour en enfance. Vous avez adoré le petit Nicolas, il revient. On en parle dans quelques secondes avec Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, le créateur du petit Nicolas.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus.
13h, 14h,
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Vous venez d'écouter le discours très poignant, très puissant de Fabienne. On va évoquer dans quelques secondes, quelques minutes avec Clément Beaune, le ministre des Transports, la sobriété énergétique, la hausse des prix des billets de la SNCF et la pénurie d'essence. Mais avant ça, on retrouve un petit peu le sourire et on est avec Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, en studio avec nous. Bonjour Anne.
Bonjour.
Anne, on vient d'entendre ce discours très poignant de Fabienne. Est-ce que vous pensez que la culture peut faire un petit peu oublier les problèmes du quotidien?
Je pense qu'avec la culture, on peut non seulement oublier les tracas de la vie, mais je crois qu'il y a un problème qu'il faudrait que nos amis producteurs, et je vais me faire beaucoup d'ennemis aujourd'hui, entendent, producteurs et distributeurs, une place de cinéma, c'est beaucoup trop cher.
C'est incroyable, elle nous l'a dit, Fabienne, qu'elle ne peut pas emmener son fils au cinéma, c'est 15 euros.
Mais oui, pour 15 euros par mois, vous avez accès à des plateformes et à plein de films. Il faudrait faire quelque chose, là, les gars.
Anne Goscinny, Fabienne a un petit-fils et je crois c'est une fidèle auditrice de Focus Dimanche de RTL. Elle continue de nous écouter. Elle va recevoir une petite surprise, je crois.
Ah oui, bien sûr, je vais envoyer tout à l'heure à Fabienne l'intégrale du Petit Nicolas que je viens de ressortir en 2 volumes, ainsi que le grand livre du Petit Nicolas. Et également, je vais lui envoyer le roman du film et 4 places pour qu'elle puisse aller voir ce film duquel elle sortira, je vous le promets, avec un grand, grand sourire.
Ah, c'est génial pour Fabienne, fidèle auditrice de RTL, qui n'espérait qu'une chose, c'est faire plaisir à son petit-fils. Et merci beaucoup Anne Goscinny. Est-ce qu'on peut choisir, quand on est papa, si on préfère son fils ou sa fille ?
Là, je sens que vous allez me demander lequel des personnages de mon père a mes faveurs, peut-être.
Gagné. Bravo.
Le petit Nicolas a quelque chose de très particulier. Avec ce personnage que j'ai découvert quasiment quand mon père est mort un tout petit peu avant, je me suis imaginé qu'il me racontait une enfance qu'il n'avait pas eu le temps de me raconter puisqu'il est mort quand j'avais 9 ans. Et donc, on a créé des liens, Nicolas et moi, et des liens qui, finalement, aujourd'hui, trouvent une espèce de, non pas de fin, mais de... Oui, de jolis feux d'artifice avec ce film que j'ai coécrit et co-dialogué, dans lequel mon père de personne devient un personnage.
Le petit Nicolas, c'est le 12 octobre au cinéma.
Avant tout, pour pêcher, il faut du silence.
Oui, chef.
Pas d'imprudence. Je veux voir personne tomber à l'eau.
Je vais craquer.
Dis donc, il est marrant, lui, c'est qui?
Nicolas. Ça te dirait pas qu'on en fasse quelque chose tous les deux?
Toi, tu lui écris des histoires, moi, je les illustre.
Si on l'appelait tout simplement le petit Nicolas.
Oh, c'est chouette!
Je sens qu'on va bien rigoler.
On a l'impression, Anne Goscinny, que le petit Nicolas a trouvé la voie parfaite. C'est Alain Chabat.
Mon père a trouvé la voie parfaite grâce à Alain Chabat. Mon père est mort il y a 45 ans. Voilà 45 ans qu'il ne peut plus parler. Et plutôt que d'essayer de trouver une voie qui ressemblait à la sienne, eh bien, j'ai décidé de demander à l'homme qui incarne le mieux son esprit. Et voilà. Donc, j'ai appelé Alain. Et je lui ai dit, est-ce que tu accepterais de doubler mon père dans un film d'animation? Et Alain, avec cette humilité incroyable qu'il caractérise, et tout le monde vous parlera de ça, de cette humilité, il m'a dit, est-ce que j'en suis digne? Et est-ce que j'en suis capable? Et vous savez, je vais vous dire un truc. Mon père est mort il y a 45 ans. Il y a 4 personnes au monde que je regrette que mon père n'ait pas connues. Il y a mon mari, il y a mes 2 enfants, Simon et Salomé, qui ont aujourd'hui 19 ans et 21 ans, et Alain Chabat. Et aujourd'hui, je me dis qu'ils se connaissent un peu mieux.
C'est son esprit, en fait.
C'est son esprit.
Son humour,
il est l'un des héritiers spirituels de mon père.
Ce qui est assez impressionnant avec le petit Nicolas, c'est que ça voyage dans le temps. Ça voyage parce que c'est aussi une génération particulière. Le petit Nicolas, c'est l'enfance de votre père, mais c'est aussi l'enfance de Jean-Jacques Sempé.
C'est l'enfance bordelaise de Jean-Jacques Sempé. C'est l'enfance argentine de mon père, mais c'est aussi la vôtre, Mohamed. C'est la nôtre. C'est celle des enfants d'aujourd'hui, parce que le petit Nicolas, qui est un enfant du tout début des années 60, de la fin des années 50, est un enfant très classique, et les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup moins axés sur les accessoires qu'on imagine. Un accessoire est accessoire, alors ça paraît bizarre de parler comme ça, mais aujourd'hui les enfants ont des téléphones, des tablettes connectées, des écrans partout, se parlent par message avec des abréviations, mais les valeurs qui restent aujourd'hui, finalement, sont celles de la camaraderie, de l'amitié, de l'amour qu'on a pour ses parents, de l'amour que nos parents ont pour nous. Tout ça sont quand même des choses qui marchent encore aujourd'hui, et heureusement. Et l'accessoire, les enfants ne s'y trompent pas, reste accessoire. Et le petit Nicolas, il est derrière des pupitres en bois, il écrit avec une plume, parfois, peut-être il est passé au stylo plume, mais les enfants s'en fichent.
Allez voir le petit Nicolas en famille, entre amis.
Oui, et n'oubliez pas le sous-titre de ce film qui fait référence à la très belle chanson de Ray Ventura et ses collégiens, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Parce que moi, je peux vous dire qu'en sortant de ce film, vous attendrez plus rien pour être heureux, vous serez heureux.
On peut la chanter aussi.
Absolument.
Vous fredonnez?
Non, je fredonne pas.
Bon, merci beaucoup Anne Goscinny d'avoir été avec nous dans Focus Dimanche. Quel plaisir de retrouver le petit Nicolas au cinéma avec Alain Chabat. C'est le 12 octobre et vous allez vous régaler en famille. Et je sais que Fabienne qui nous écoute sera très très heureuse. On continue d'évoquer l'actualité avec Clément Beaune, le ministre des Transports, pour évoquer toutes les questions liées au billet de la SNCF, la hausse des prix et la pénurie d'essence.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Les prix des billets de la SNCF qui augmentent, tout comme les péages d'autoroute, les tensions dans toutes les pompes à essence en France. Les Français sont inquiets. Un des piliers du gouvernement, Clément Beaune, le ministre des Transports, est avec nous en studio dans Focus Dimanche sur RTL. Bonjour Clément Beaune.
Bonjour Mohamed Bouafsi.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que la France est en pénurie d'essence, Clément Beaune?
Non. La pénurie, je veux expliquer ce que c'est quand on n'a pas de carburant qui arrive sur notre territoire national. C'est pas la situation qu'on vit aujourd'hui. Après, quand les gens vivent des difficultés, faut pas leur dire qu'ils ne vivent pas de difficultés.
Écoutez Clément Beaune, William, il est pompiste.
Bah, les dépôts sont saturés, on a beaucoup plus de charges de travail. Comme on est limité en termes de tracteurs et de citernes, on fait beaucoup plus d'heures. Alors, à titre d'exemple, à l'ERS, j'ai livré 60 000 litres en une journée, ils ont été pris dans la journée. D'habitude, ils prennent 20 000. Et là, ils ont failli se battre. C'est à la limite de se battre. Donc c'est comme ça depuis tous les jours. Voire nous, on se fait insulter parce qu'on livre pas assez vite.
On comprend, Clément Beaune, que le gouvernement peut avoir un discours qui ne se veut pas forcément alarmiste. Mais quand on entend William, ce pompiste, qui voit des débuts de bagarre devant lui, des queues dans les pompes à essence aussi de plusieurs centaines de mètres, vous pouvez comprendre que ça inquiète les Français, clairement. Et que pour relancer une raffinerie, il faut une dizaine de jours. Ça va continuer, ces problématiques devant les pompes à essence?
Bien sûr, je comprends et je vois l'inquiétude. Mais La responsabilité du gouvernement, c'est de dire les choses de la manière la plus transparente, la plus juste possible. Il n'y a pas de pénurie, c'est pas pour cacher les difficultés, il y a des difficultés. Quand je dis il n'y a pas de pénurie, c'est parce qu'on n'a pas un problème de livraison d'essence sur le territoire français. On a un problème social et on a un problème de concentration des gens qui viennent parfois de l'étranger pour certaines stations-service. Donc on essaye de gérer ça le plus vite possible. La solution la plus importante, c'est de mettre fin à cette grève.
Vous espérez un retour à la normale quand ?
Je ne veux pas faire des prévisions qui sont forcément, je le dis honnêtement, entourés d'incertitudes, parce que si la grève continue, etc., j'espère que c'est une affaire de quelques jours, j'espère qu'on pourra redonner signal, mais je le dis aussi, c'est pas une façon de minimiser les difficultés, c'est pas une façon de cacher les choses, c'est, quand je dis pas de pénurie, c'est la réalité de l'approvisionnement de notre pays, et surtout, je dis aux gens, n'ajoutez pas de la panique aux difficultés.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas, ce que vous dites aujourd'hui aux auditeurs de Focus Dimanche sur RTL, c'est qu'il ne faut pas se précipiter quand on est à la moitié de son réservoir, par exemple.
De manière en confiance et en responsabilité. Des gens qui ont besoin de faire le plein, notamment des professionnels, des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller au boulot, etc. Je ne veux pas leur dire de ne pas prendre d'essence, ce serait indécent. En revanche, il n'y a pas de raison d'aller faire des stocks.
La facture d'électricité de SNCF Voyageurs va augmenter de 1,6 milliard d'euros. Est-ce que vous craignez des répercussions sur les billets pour les Français ?
Alors d'abord, je veux être précis sur l'énergie, parce que là aussi, il faut être le plus honnête possible. On ne sait pas exactement ce que sera la facture, même d'une grande entreprise comme la SNCF, pour 2023. Le président de la SNCF, M. Farandou, a évoqué un chiffre d'1,6 milliard. C'était sans doute une estimation très haute. Et on fait plusieurs choses. D'abord, il y a des mesures que le ministre de l'économie a annoncées cette semaine pour plafonner les prix de vente des gros volumes d'électricité. Et donc, ça peut aussi avoir un effet pour réduire la facture. Ensuite, on essaye de réduire, dès cet hiver, la consommation d'énergie. Et puis ensuite, il ne faut pas mentir, il y a de l'inflation dans notre pays, il y a de l'énergie qui coûte plus cher. Ça a forcément des effets dans nos vies. Et beaucoup de choses augmentent, on le sait. Pour être très clair, il n'y a pas un signe égal entre le prix de l'énergie et le prix du billet. Il y a d'autres facteurs qui jouent. Donc, ce n'est pas parce que l'énergie augmente qu'on va tout retrouver dans le prix du billet. Il faut que la SNCF minimise le plus possible l'impact de cette facture énergétique en essayant de la réduire d'abord. Ensuite, moi, ce qui me préoccupe, c'est que les gens qui ont le plus besoin de prendre le train, et c'est important pour la transition écologique, puissent le faire. Et donc, c'est les régions, c'est l'État, ou la SNCF plus exactement, qui doivent faire en sorte que pour les voyageurs fréquents, que pour les tarifs sociaux, on ait des efforts particuliers. Autrement dit, un tarif de train, ce n'est pas une mesure générale.
En clair, pour la personne qui habite à 40 km ou 50 km et qui prend le train, ou peut-être un peu plus 80 km, elle ne doit pas être impactée par ces augmentations-là.
Je vais être là aussi très honnête, je ne peux pas garantir zéro impact. Oui. Je peux en revanche dire que ce n'est pas parce qu'il y a de l'augmentation de l'énergie que ça se retrouve intégralement dans le prix du train. Et oui, qu'ensuite on peut différencier et on doit différencier les choses. Il y a des cartes d'abonnement, il y a des abonnements de transport public qui sont pris en charge par l'employeur. Je prends une mesure très concrète. On a pris par la loi, cet été, je l'ai défendu, une mesure qui permet aux employeurs d'être sans charge, sans taxe, jusqu'à 75% de la prise en charge des abonnements de transport public des salariés. Moi, ma préoccupation, c'est que les transports du quotidien soient les plus accessibles possibles. C'est une question de prix, mais c'est aussi une question de qualité. Et on le voit aujourd'hui dans pas mal de métropoles françaises, dont Paris. C'est une question de disponibilité des transports et de recrutement de chauffeurs, de conducteurs notamment.
Clément Beaune, vous utilisez SNCF Connect ?
Oui, ça m'arrive.
Est-ce que vous pensez que cette application est à la hauteur ? On a vu cette semaine beaucoup de bugs techniques.
Ils ont beaucoup amélioré l'application, honnêtement. Le SNCF Connect d'aujourd'hui n'a pas beaucoup de rapport avec les toutes premières versions qui avaient des difficultés début 2022, je crois. Il y a eu des difficultés ponctuelles cette semaine, c'est vrai, il y en a de temps en temps. Honnêtement, oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des choses encore à améliorer. C'est une bonne application. C'est le début d'une vraie application, tout mode de transport confondu, et il n'y en a franchement pas beaucoup en Europe et en France qui sont de cette qualité. Donc, parlons de ce qui va bien, comme les trains qui arrivent à l'heure. SNCF Connect, franchement, ça marche bien, et améliorons encore.
Les péages vont augmenter le 1er février 2023. Des millions de Français sont concernés. On évoque 8% d'augmentation. Clément Beaune, est-ce que vous vous engagez à limiter cette hausse ? Je vous pose la question dans quelques secondes sur RTL.
Focus Dimanche sur RTL.
13h, 14h.
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Clément Beaune, certains auditeurs de Focus Dimanche sont en voiture actuellement. Les péages autoroutiers vont-ils devenir hors de prix en 2023 ? Vous négociez actuellement avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes. En février 2023, ils auront le droit d'augmenter leur contrat. Il faut taper du poing sur la table. Il faut montrer que l'État ne peut pas se laisser marcher dessus par ces sociétés concessionnaires.
Mais moi, je veux défendre les intérêts de l'État et surtout les automobilistes. Mais je veux quand même rappeler de quoi on parle. Les sociétés d'autoroute, elles ont un contrat avec l'État. Contrairement à ce qu'on a dit, je ne reviens pas sur les épisodes de privatisation, on pourrait critiquer et revenir longuement, mais Il y a un contrat qui lie depuis 70 ans des sociétés d'autoroutes à l'État. Donc il y a des règles. Ce n'est pas les sociétés d'autoroutes qui fixent comme ça, heureusement, leur prix du péage. Quand je suis arrivé au ministère des Transports, on parlait d'augmentation incroyable, qui était de 8%, par exemple.
Et là, on parle toujours de ces augmentations.
Alors justement, moi j'ai dit que ce ne serait pas soutenable pour les automobilistes qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, pour les automobilistes français, on ne peut pas avoir des augmentations de 8%.
Là, c'est un engagement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'augmentation
oui,
de 8%.
Ce ne sera pas 8%, ça c'est clair, ce ne sera pas 7% non plus. Je vais être très honnête jusqu'au bout. Il y aura une augmentation des péages au 1er février 2023. Mais je suis en train de discuter pour qu'elle soit raisonnable, qu'elle soit proportionnée et qu'on ne soit pas dans des taux qui mettent en difficulté le pouvoir d'achat comme des 8%.
Et c'est pour ça que vous mettez en place le plan covoiturage.
Oui, aussi.
Avec une prime qui sera à hauteur de 100 euros. C'est
oui,
ça,
c'est l'ordre de grandeur. Mais il y aura un plan plus complexe que ça. Il y aura une prime. Cette incitation financière, c'est pour créer un choc culturel. Pour dire aux gens, écoutez, vous allez gagner de l'argent en covoiturant, mais on vous accompagne. Et si vous connectez à une plateforme, c'est comme ça que ça marchera, vous aurez une réduction. Et après un certain nombre de trajets, vous aurez une réduction supplémentaire.
Cette question, elle vous concerne sur deux points. Vous l'entendez, cette petite musique dans certains partis d'opposition. Est-ce qu'il faut se battre pour l'Ukraine? Est-ce qu'il faut revenir à la table des discussions avec la Russie? Est-ce que baisser de 2 degrés son chauffage, c'est normal pour la paix en Ukraine? Vous, l'ancien ministre des Affaires européennes et actuellement ministre des Transports.
Mais si, moi je suis très clair, si le message c'est que la démocratie a un prix, implique des efforts, oui évidemment. Mais je vais le dire aussi parce que quand on dit ça, et je l'entends, tout de suite les gens se disent mais c'est facile pour lui quand on est ministre, sans faire de démagogie, c'est vrai qu'on n'a pas de problème matériel, on gagne bien sa vie, on a une voiture, etc. Évidemment, donc c'est facile de dire payer le prix quand c'est les autres, mais on doit tous faire l'effort, on doit tous défendre notre démocratie, rien n'est jamais parfait. Donc je ne donnerai là non plus pas de leçons, mais regardons quand même ce que grâce à notre État-providence, et j'en suis très fier, en France on a fait pour accompagner, malgré la guerre, et face aux conséquences de la guerre, les Français à avoir un carburant pas trop cher, à avoir une énergie qui a été beaucoup moins élevée que dans les autres pays européens. On a pris ces protections et ces boucliers en France, il faut continuer.
Quelques questions d'actualité avant de vous dire au revoir Clément Beaune. On va écouter la voix d'un homme, vous allez la reconnaître sans doute. Vous étiez ministre des Affaires européennes dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est la voix de Vladimir Poutine. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Quand on l'a en face de soi, quand on entend sa voix, qu'est-ce qu'on ressent ?
Moi, je l'ai rencontré à peu de reprises, quelquefois, en effet, en accompagnant Emmanuel Macron, avant la guerre. Il y a effectivement une présence, c'est une figure politique. Maintenant, c'est un agresseur en plus de tout ça. Mais oui, il y a une forme d'ambiance qui est parfois lourde.
Clément Beaune, votre mère est d'origine russe. Quand on traite la guerre en Ukraine, quand on est ministre et quand on le vit personnellement, ça change les choses ?
Pas sur le fond. D'abord, la politique de la France, ça définit évidemment par le président de la République. Et moi, comme ministre des Affaires européennes, j'ai été dans tous les débats, du Brexit à la guerre, le plus objectif possible et soucieux uniquement des intérêts de la France. Et c'est une grosse responsabilité. Mais évidemment, ma mère est plus précisément d'ailleurs ma grand-mère, d'origine d'Odessa, dont on a beaucoup parlé, qui est aujourd'hui en Ukraine, qui était à l'époque où ils ont émigré en France, une ville de l'Empire russe. Donc ça me parle, pas pour être partisan ou pour être emporté, pas pour avoir une émotion qui prendrait le dessus, mais surtout, c'est pas tellement une question de tel ou tel parti, mais pour avoir une sensibilité à ce qu'est fuir un conflit, puisque moi, ma famille a fui les pogroms, pour avoir une sensibilité sur ce qu'est la guerre et la paix. Je n'en tire aucune gloire, aucun bénéfice ou mérite personnel, j'en ai aucun.
Il y a de l'émotion d'en parler en famille ?
On en parle, vous savez, parfois dans les familles qui ont vécu, il y en a beaucoup, hein, des histoires riches mais compliquées, des douleurs, on parle assez peu.
Merci beaucoup Clément Beaune, ministre des Transports. Je sais que vous aimez la musique classique.
J'aime bien.
Alors quand vous serez dans votre voiture hybride, vous pourrez continuer d'écouter Focus Dimanche. On reçoit dans quelques secondes Sol Ray, une ancienne violoniste exceptionnelle qui est devenue chef d'orchestre. Bon dimanche à vous Clément Beaune.
Focus Dimanche sur RTL. RTL.
Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi.
Dominique Lemonnier, Sol Ray de son nom d'artiste, a dirigé mardi dernier un très grand spectacle musical et visuel pour rendre hommage aux femmes. Elle aurait pu faire partie de cette œuvre au vu de sa carrière exceptionnelle. Une renaissance pour cette brillante violoniste qui a connu aussi les galères. Après la perte partielle de l'usage de son bras gauche, elle a mis le violon de côté pour diriger, devenir une chef d'orchestre de talent. Elle est avec nous en studio. Bonjour Sol Ray.
Bonjour Mohamed.
Sol Ray, racontez-nous votre incroyable carrière, votre passion du violon. Elle arrive très très jeune cette passion, à 6 ans.
Oui. Elle arrive comme un météorite. Après avoir débuté la musique vers 3 ans avec ma mère,
j'ai
j'ai découvert cet instrument et c'est vrai que ça a été une révélation et il ne m'a plus jamais quitté.
Vous saviez lire la musique avant de lire les lettres?
Tout à fait. Je connaissais les notes et je pouvais lire une partition très simple au piano avant de savoir lire et écrire. Je regrette que l'éducation musicale dans les maternelles, dans les écoles, soit si peu présente. C'est quelque chose qu'on pourrait faire découvrir aux enfants d'une manière extrêmement simple et ludique dès la maternelle. Je ne comprends pas pourquoi on donne des crayons de couleur aux enfants et pourquoi on ne dessine pas des ronds noirs et blancs en leur expliquant que ce sont des notes.
Le violon ne vous a jamais lâché? Avant 2010, vous devez subir à l'époque une intervention au cerveau. C'est quand vous vous réveillez que vous comprenez que votre carrière est en danger?
Qu'elle est finie. Mais encore une fois, la musique m'a sauvée. Parce que la première chose que j'ai fait, c'est prendre mon violon que je ne pouvais même plus attraper par le manche pour faire sonner ces 4 cordes à vide qu'il me restait. J'ai aujourd'hui une vraie réunification de mon être grâce à la musique.
Vous êtes opéré du cerveau, vous survivez, et vous êtes là sans votre bras gauche, en tout cas une partie de votre bras gauche, et vous expliquez que cette différence que vous ressentez sur votre bras gauche, c'est cette perte de micro-sensibilité qui fait la différence entre un bon violoniste et un très grand violoniste. Expliquez-nous à quoi sert le bras gauche pour un très grand violoniste.
Vous savez, à gauche, on fabrique les notes. Il y a une particularité, le violon est tout petit. Donc, pour changer de note, ce sont plus vous montez vers les aigus et plus les intervalles sont petits. Alors que Django Reinhardt, par exemple, il a passé sa carrière avec 2 doigts, mais la guitare a des frettes et des espaces très très confortables. Alors que moi, je me suis rééduquée, je suis remontée sur scène en tant que violoniste, j'ai donné des concerts, mais ça me demandait un labeur absolument extrême. Et j'ai été obligée d'arrêter parce qu'effectivement, ces micro-intervalles au violon dans les aigus sont si petits qu'on doit, malgré pourtant la finesse de mes doigts, on doit...
Vous êtes en face de moi, c'est vrai qu'ils sont tout petits,
oui,
très fins.
Très fins, mais parce que j'ai perdu aussi un peu de musculature. Mais on doit carrément chevaucher ses doigts pour changer de note.
Vous avez vécu cela comme une petite mort.
Tout à fait.
Ces mots sont forts, Solray. C'était votre petite mort.
Mais bien sûr, écoutez, j'ai été constituée pendant 45 ans de cet instrument. Et du jour au lendemain, il m'échappe.
Solray, c'est votre détermination et le trafic quintette qui vous sauvera. Un quatuor à cordes avec contrebasse, mais aussi votre spectacle Divine Féminin, où vous mettez en avant des femmes sacrifiées, projetées sur grand écran du mépris, ce film magnifique à Vertigo, en passant par Basic Instinct. Écoutez ça. Vous êtes ému, j'ai l'impression, de vous entendre. C'est quelque chose de particulier de s'entendre. On voit, c'est incroyable, on n'a pas d'image, on est en studio, mais on voit Sharon Stone avec ses sons.
Bien sûr.
On l'imagine.
Bien sûr. Mais la musique est très 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 imaginative, elle provoque dans le cerveau des tas de connexions extraordinaires.
Elle est suggestive.
Oui, elle est totalement suggestive.
Vous vouliez montrer qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie. C'est une leçon de résilience que vous proposez en vous relevant. Et quand vous vous relevez, vous faites les choses en grand. C'est-à-dire que vous arrêtez le violon, mais vous devenez chef d'orchestre. Expliquez-nous aux auditeurs.
Je reprends mes études.
Mais chef d'orchestre, c'est le Graal. Donnez-nous des codes, par exemple.
Mais écoutez, la baguette, d'abord à droite, on bat la métrique,
oui.
Plutôt. Et à gauche, on est plutôt dans l'expression, dans la dynamique.
Et il y a des chefs d'orchestre qui utilisent les mains aussi.
Oui, voilà. Moi, quand je dirige le quintet, je ne prends pas de baguette. Je dirige avec les mains.
Comment on peut être chef d'orchestre avec un bras gauche moins mobile, Solray?
Alors, pour la direction d'orchestre, ce que j'ai retrouvé de ma sensibilité à gauche me suffit. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas ces micro-intervalles et cette énorme sensibilité digitale. C'est plus une main qui s'exprime, c'est plus un geste. Et le bras, chez moi, est totalement redevenu normal. Ce ne sont que les doigts qui sont affaiblis.
Je me fais un plaisir. C'est magique. Là, on est en Italie, on voit Marlon Brando. C'est incroyable, c'est dur à travailler le parrain.
Écoutez, ce sont des musiques qui ne sont pas le Sacre du Printemps ni la Valse de Ravel, mais
qui ont une autre portée aussi.
Voilà, qui ont une autre portée, qui sont beaucoup plus populaires, qui représentent une Italie, un monde. Et c'est tellement agréable et intéressant de se confronter à des esthétiques très différentes. Une de mes particularités, c'est d'être extrêmement curieuse, et je pense que ça m'a sauvée.
La curiosité, des rencontres,
voilà,
aussi.
Rencontres fantastiques.
Une soirée chez un homme pas très connu, qui s'appelle Coluche, c'est ça. Ça va donner une rencontre, la rencontre de votre vie, l'amour de votre vie, rencontre avec Alexandre Desplat.
Tout à fait.
Racontez-nous cette rencontre chez Coluche.
En fait, Alexandre enregistrait une de ses premières musiques de film. Et Coluche était un homme extrêmement généreux et qui aimait beaucoup la musique et qui avait un studio chez lui pour ses copains. Donc Alexandre était un très jeune compositeur, il n'avait pas beaucoup d'argent et Coluche lui a dit viens enregistrer. Et on était un quatuor à cordes. Et en fait, il a fait un premier enregistrement qui s'est très mal passé parce que les musiciens classiques parfois sont difficiles. Et il a été obligé de le refaire. Et je suis arrivée avec un autre violoniste pour refaire cette musique. Et voilà. Et je me suis dit, oh, ce compositeur est extrêmement sensible et intéressant. Puis voilà, l'histoire a commencé. C'est fantastique d'avoir un compagnonnage artistique de cette qualité.
Alexandre Desplat, l'un des plus grands compositeurs français de cinéma, oscarisé, l'une des plus grandes stars de la musique française et qui porte son travail dans le monde. Merci beaucoup, Solray. Divine Féminin, le vinyle de votre spectacle est à retrouver chez tous les bons disquaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Focus Dimanche sur RTL. Je vous souhaite un très très bon dimanche, Solray.
Merci, Mohamed.
Avant de vous dire au revoir, une belle cause. RTL est partenaire du Pasteur Don. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont besoin de vous pour vaincre les épidémies et les cancers. RTL est fier de se mobiliser auprès de l'Institut Pasteur. Pour l'avenir de tous, défendons la recherche. Faites un don au 3620 ou en envoyant don par SMS au 92 112. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Focus Dimanche sur RTL et je vous en remercie. Focus Dimanche, c'est l'émission des entretiens avec ceux qui font l'actualité de la semaine chaque dimanche à 13h sur RTL et à réécouter sur l'application RTL. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Claude Lelouch. Il est l'invité de Bruno Guillon dans le Bon Dimanche Show.